Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information dont voici les titres. Célébration à Velehrad ce lundi de la Saint-Cyril et méthode. L'acteur britannique Jude Law est arrivé au festival de Karlovy Vary, au festival international du film. Et puis du sport avec du tennis et après son beau parcours à Wimbledon, Tomáš Berdych gagne 5 places au classement ATP. Le 5 juillet est traditionnellement férié en République tchèque pour célébrer les deux saints évangélisateurs des contrées slaves, Cyril et Méthode. Les célébrations se déroulent notamment à Velehrad en Moravie, lieu de pèlerinage des chrétiens tchèques, où une messe a été célébrée en plein air ce lundi matin. À son retour du Vatican la semaine dernière, l'archevêque de Prague, Dominique Duka, a indiqué qu'une délégation tchèque se rendra en septembre prochain à Rome pour essayer d'organiser une visite du pape en juillet 2013 à l'occasion du 1150e anniversaire de l'arrivée des deux saints en terre slave et du début de leur évangélisation. De la culture avec du cinéma et le Festival international du film de Karlovy Vary qui se poursuit en Bohême de l'Ouest, où est arrivé dans la soirée de dimanche l'acteur britannique Jude Law, une des principales stars de cette 45e édition. Jude Law se verra décerner le prix du président du festival pour sa contribution essentielle à l'évolution du cinéma. Environ 200 films sont projetés dans les différentes salles de la ville thermale jusqu'à samedi prochain, le 10 juillet. On en reparlera dans les prochaines éditions de notre programme en français. Du sport avec du tennis, et vous le savez, le tchèque Tomáš Berdych a été battu dimanche en 3-7 par l'espagnol Rafael Nadal en finale du tournoi de Wimbledon, donc en 3-7, 6-3, 7-5, 6-4, après un très bon parcours et des victoires contre des mieux classés que lui comme Roger Federer et Novak Djokovic. C'était la première finale d'un tournoi du Grand Chelem pour Tomáš Berdych. Et grâce à ce parcours dans le tournoi, il gagne 5 places au classement ATP, il rentre dans le top 10 et pointe désormais en 8e position, juste derrière l'Argentin Juan Martín del Potro. Et puis toujours du tennis et toujours Tomáš Berdych, parce que la République tchèque sera privée de ses deux meilleurs joueurs pour le quart de finale de Coupe Davis à partir de vendredi prochain contre le Chili, après Radek Štěpánek au repos depuis de longues semaines en raison d'un virus. C'est donc Tomáš Berdych, en raison de douleurs aux abdominaux, qui a décidé de renoncer au déplacement en Amérique du Sud dans la foulée de sa défaite en finale de Wimbledon. Mais comme les Chiliens ne pourront pas compter sur Fernando González à Coquimbo, là où va se dérouler la rencontre, l'équipe tchèque, composée par Jan Hajek, Lukáš Dlouhý, František Čermák et Ivo Mináš, garde un espoir de rallier le dernier carré sans ses deux piliers. On passe à la météo, avec toujours des risques d'averses et d'orages dans l'ouest de la République tchèque, un ciel partiellement dégagé ailleurs et des températures maximales comprises entre 23 et 27 degrés, ce sont les prévisions pour ce lundi, jour de fête nationale en République tchèque. Et la suite de ce programme en français sera une émission spéciale consacrée à cette fête nationale, à la Saint-Cyril et Méthode. Je vous souhaite une très agréable écoute.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Deux fêtes nationales du calendrier tchèque célèbrent de grandes figures de l'Église. Le 5 juillet, la fête des apôtres Cyril et Méthode, venue vers 863, propageait le christianisme en Grande-Moravie. Le 6 juillet, commémore le réformateur de l'Église, Jan Hus, brûlé vif comme hérétique sur le bûcher de Constance en 1415. Deux fêtes religieuses célébrées dans un pays qui a pour particularité d'être le plus athée d'Europe et où moins d'un tiers des habitants répondent par l'affirmatif à la question « Croyez-vous à un Dieu ?». Nous avons demandé des explications à Petr Kolář, jésuite et ancien journaliste à la rédaction religieuse de la radio tchèque.
La raison a ses racines dans l'histoire et aussi dans le présent ou dans le passé très récent. La raison principale consiste dans deux instrumentalisations de la religion chrétienne dans l'histoire tchèque. La première, c'était au moment de la réforme. Après des efforts et des guerres sanglantes, au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans chez nous, la religion qui s'imposait dans notre pays était le protestantisme. Par exemple, dans la ville de Prague, qui avait 32 paroisses à l'époque, il y avait 31 paroisses utraquiste, protestante, luthérienne, frère de Bohème, une seule catholique, le château de Prague, la chapelle. Or, selon la fameuse règle « cuius regio eius religio », c'est-à-dire « le souverain décide de la religion de ses sujets », malheureusement pour les Tchèques, à la différence des voisins, nous avions un souverain Habsbourg qui était catholique alors que le pays était protestant. C'est ça le drame au départ, parce que la Prusse, par exemple, elle avait aussi la population protestante, mais le souverain était protestant aussi. Les pays comme l'Italie, l'Espagne et d'autres avaient un souverain catholique, mais la population majoritairement était aussi catholique. Or, chez nous, il y avait un conflit. Et ce Habsbourg a été élu au XVIe siècle par le vote tout à fait légal et correct. Et donc, le souverain catholique a décidé de récatholiser le pays. Et il a commencé par inviter les jésuites et d'autres religieux, et c'était le rouleau compresseur. Pendant plusieurs générations, la première vague d'exil, y compris la direction par exemple des églises non catholiques, l'évêque célèbre Comenius a été exilé lui aussi avec sa famille, et le pays petit à petit est devenu catholique, en apparence au moins.
Le rapport envers l'Église a-t-il évolué à la fin du XVIIIe siècle avec le début des efforts visant à une émancipation nationale, Petr Kolář?
À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, par contre, pour des raisons politiques, la représentation tchèque, à l'intérieur de la monarchie austro-hongroise à l'époque, a senti une pression trop forte, surtout au niveau économique et social, et a voulu obtenir au moins une autonomie. Et au moment où il s'avérait que cette autonomie n'était pas possible, ils ont décidé de chercher l'indépendance de la Bohème. C'est-à-dire, c'est le début des efforts qui ont abouti au début du XXe siècle à la création de la Tchécoslovaquie. Or, ils cherchaient aussi une idéologie de soutien. Contre les Habsbourg catholiques germanisants, l'idéologie est devenue importante et elle était anti-germanique et anti-catholique. La fameuse parole « Los von Wien, détachons-nous de Vienne », on a ajouté à la seconde « Los von Rom, détachons-nous aussi de Rome ». Deuxième instrumentalisation qui semblait tout à fait naturelle puisque le passé avant les Habsbourg était hussite, protestant, etc. Et donc, au début du XXe siècle, à la création de la République tchécoslovaque, on a eu une vague de départ de l'église catholique. On a eu même une église tchécoslovaque, imaginez une église française en France, l'église tchécoslovaque qui actuellement s'appelle tchécoslovaque hussite, on a ajouté le mot hussite mais au début il n'y était pas, et cette église dans les années 30 du XXe siècle avait presque 1 million d'adhérents, c'est-à-dire vraiment une hémorragie à l'église catholique parce que c'est essentiellement de là que venaient les fidèles. Même des prêtres, plusieurs centaines de prêtres ont quitté l'église. Et cette église semblait être le courant principal religieux du pays. Or, actuellement, cette église, elle est tombée à quelques 70 000 personnes seulement, mais toutes les autres avec. Cette situation, moi, je crois qu'elle est due à ces deux instrumentalisations. D'abord le catholicisme pour les buts politiques des Habsbourg, et ensuite le protestantisme pour les buts des nationalistes tchèques. Un homme simple dans la rue, au bout d'une démarche pareille, se dit « ni l'un ni l'autre ».
Si on compare la situation en Tchéquie, pays le plus athée d'Europe, à celle notamment de la Pologne, le fait que l'Église catholique tchèque ait toujours été du côté des puissants semble être une des raisons de l'athéisme des Tchèques.
L'Église catholique tchèque n'avait pas du tout la position dans la nation, dans la société tchèque, que l'Église catholique polonaise en Pologne. La Pologne a connu pendant son histoire des moments tragiques et dramatiques, et chaque fois, l'Église catholique était du côté de la nation et non pas du côté des puissants, que ce soit les Prussiens, que ce soit les Russes, que ce soit les Suédois, que ce soit des autres, l'Église catholique, inébranlable, toujours du côté de la nation, contre l'oppresseur. Or, chez nous, dans la monarchie, l'Église catholique était du côté des puissants. Donc, elle n'a pas du tout l'habitude de se dresser contre le pouvoir, et de ce fait, elle a été laminée, faible, et même si elle a essayé de se dresser contre le communisme en 1948, la réponse de la nation a manqué. Les gens ne faisaient pas confiance à cette Église, sinon à la fin des années 80, au bout de 40 ans de résistance contre le communisme. Mais même là, ça s'est manifesté, je dirais plutôt dans les personnes éparses et non pas massivement dans l'hiérarchie compacte comme en Pologne. Et de ce fait, en Pologne, le régime communiste n'a jamais pu mettre en marche une telle oppression parce que la nation était derrière son Église, sachant que c'est elle qui défend les intérêts de la nation. Et dès que les communistes touchaient à une croix quelque part ou à un évêque, c'était la menace de l'insurrection. D'ailleurs, dans les années 50, le régime communiste polonais était obligé de libérer les évêques pour calmer la population qui était au bord d'une révolte sanglante.
Un peu de musique quand même. Václav Richter.
L'œuvre des apôtres des Slaves, Cyril et Méthode, a inspiré aussi la musique du XXe siècle. Le philosophe Cyril, ou Constantin, et son frère Méthode, avec de Sirmium en Pannonie, ont évangélisé au IXe siècle le peuple slave qui vivait en Europe centrale. C'est grâce à ces apôtres que s'est ouvert au peuple d'Europe centrale l'accès à la culture byzantine et qu'a pu s'épanouir leur propre culture. Cyril et Méthode leur ont donné leur premier alphabet et leur premier texte religieux, évangile, psautier, épître, office. L'alphabet créé par Cyril était probablement l'alphabet glagolitique. Au XXe siècle, les textes liturgiques en vieux slavon traduits en alphabet glagolitique inspirent le compositeur morave Leoš Janáček. À l'époque où Alfons Mucha célèbre l'idée du panslavisme avec son épopée slave, ainsi que de tableaux monumentaux, Leoš Janáček crée la messe glagolitique. Selon la musicologue Milena Černohorská, la messe glagolitique constitue incontestablement le témoignage le plus puissant de la mentalité slave du grand compositeur. En comparaison avec l'expression digne, pathétique ou mystique de la foi religieuse telle qu'elle se manifeste dans les messes latines, remarque Milena Černohorská, la messe de Janáček, par la rudesse, la spontanéité de son langage, ainsi que par son panthéisme païen, apparaît comme la manifestation d'un esprit foncièrement différent, d'autant plus que l'auteur de la messe, imbu d'un sentiment profondément slave, retourne dans sa fantaisie jusqu'au temps de l'ancienne communauté des peuples slaves. Ce n'est donc pas le texte slavon de l'œuvre, qui garde par ailleurs la disposition traditionnelle de la messe latine, qui fait de la messe glagolitique une œuvre unique dans la musique universelle.
Thank you.
messe glagolitique de Leo Janáček présentée pour vous sur Radio Prague par Václav Richter. Et c'est avec cette messe glagolitique que prend fin le programme en français de Radio Prague pour aujourd'hui, jour de fête en République tchèque. Merci à toutes et à tous de votre attention. Retrouvez-nous sur notre site internet au www.radio.cz et je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée où que vous soyez dans le monde. À très bientôt.
En su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 8 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 14 horas UTC transmitimos para España por los 11.720 kHz. A las 18 y 19 horas UTC los oyentes españoles nos pueden sintonizar por 5.930 kHz. Radio Praga transmite a las 20:30 horas UTC para España y América Latina por los 5.930 kHz. Los oyentes latinoamericanos nos pueden sintonizar a las 23 horas UTC por las frecuencias de 9.440 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 9.445 kilohercios a través de la repetidora en la Isla Ascensión. A las 0.30 horas UTC, los radioescuchas de Centro y Sudamérica nos pueden sintonizar por los 9.790 kHz.